RCF.
Émergence du nouvel âge, développement des pratiques ésotériques, ce sont là toutes les grandes questions qui nous intéressent au cœur de cette grande enquête. Et nous avançons dans notre grande enquête autour des nouvelles religiosités et du monde occulte en compagnie du père Dominique Ozenet qui nous éclaire précisément sur sa mission de prêtre exorciste. Alors mon père, vous aviez évoqué dans notre dernier volet le sens même de cette mission de prêtre exorciste. Et vous aviez terminé en nous rappelant le sens profond de la libération par la foi chrétienne.
Oui, il faut savoir que dans chaque diocèse, il y a donc un service diocésain de l'exorcisme. Le prêtre qui est nommé par l'évêque, parce que c'est l'évêque qui est exorciste dans son diocèse, il le délègue à un ou plusieurs prêtres. Le prêtre qui est nommé par l'évêque s'entoure de laïcs, donc il y a une équipe pour accueillir les personnes et qui intervient à différents niveaux, soit pour accueillir les gens, soit pour accueillir avec le prêtre, soit pour être présente lors des prières de libération ou d'exorcisme. Voilà. Et donc, nous recevons les personnes qui sont en souffrance spirituelle, à proprement parler, qui ont une problématique de souffrance spirituelle et qui demandent à rencontrer le prêtre exorciste pour être entendues et recevoir une sorte de discernement, parce qu'elles observent que dans leur vie, il y a des phénomènes bizarres qui les surprennent elles-mêmes, et qui font qu'elles se sentent amoindries dans leur liberté humaine et dans leur liberté spirituelle. Et donc, le cheminement qu'on va entamer avec ces gens qui viennent frapper à la porte va être de les aider à reconquérir une liberté spirituelle plus grande à travers prise de conscience de ce qui s'est passé, les causes possibles, éventuelles et probables de leurs difficultés, la renonciation à tout cela, une prière de libération, s'il faut, si ça va plus loin, si elles sont prises vraiment habitées intérieurement par des entités diaboliques, on va passer évidemment à la prière de l'exorcisme aussi, mais c'est beaucoup plus rare.
Alors c'est très paradoxal ce que vous dites, puisque on pourrait penser que finalement pratiquer toutes ces différentes manifestations occultes peut revêtir une forme de liberté.
Oui,
or,
c'est
ça, l'Église oui. pourrait être perçue comme justement celle qui empêche de pratiquer et donc d'être libre dans ses pratiques.
Alors il y a deux choses. Il y a effectivement la parole que l'Église pourrait prononcer à l'égard des réalités occultes. Et là, publiquement, dans des enseignements, dans la catéchèse, et là, elle pourrait évidemment être beaucoup plus claire qu'elle ne l'est, beaucoup plus fréquente qu'elle ne l'est. Elle enseigne peu sur ces domaines-là. Hein. Donc les gens sont dans le vide ou dans l'erreur en pensant que les dons occultes viennent de Dieu. Ensuite, il y a un autre aspect qui sont les personnes qui viennent demander une aide spirituelle à l'Église parce qu'elles se sentent prises dans quelque chose qu'elles ne dominent pas et qui leur pose problème. Et là, effectivement, le cheminement, mais dans les deux cas, le cheminement va vers plus de liberté. Donc l'Église ne condamne rien, mais dit attention, ne touchez pas à ça. Si vous mettez la main dans le pot de confiture, ça va continuer à être collant, non seulement pour vous, mais peut-être même pour les générations futures, tant que vous n'aurez pas renoncé à la chose, hein, attention. Ou si ça colle, encore pour vous, c'est peut-être parce que vos parents, vos grands-parents ont mis la main dans des choses qui n'étaient pas nettes, quoi. Donc il faut regarder ça plus précisément.
En général, dans cette démarche de libération, je dirais, en général, le public est concerné, c'est plutôt...
C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, mais malheureusement, les gens ne viennent que quand ils ont des phénomènes de dysfonctionnement alarmants qui leur posent problème. Quoi.
Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a été voir un magnétiseur sans avoir d'effets paranormaux, mais qui ressent des angoisses ou des choses comme ça, peut éventuellement s'adresser à vous ?
Oui, bien sûr, oui. Oui, même le magnétiseur lui-même, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des magnétiseurs qui pensaient qu'on leur avait fait des histoires par derrière pour leur nuire, mais qui en fait avaient le retour de leur propre pratique, donc ils venaient voir pour une sorte de désenvoûtement ou de protection, n'est-ce pas ? Mais en fait, Évidemment, j'étais bien obligé de leur dire qu'il va falloir qu'ils arrêtent tout ça, sinon il n'y a pas de solution. Et là, ils repartaient dardard parce qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'arrêter. Mais donc tout le monde peut venir, oui.
En quoi est-ce que l'Église catholique guérit et libère ?
Alors, l'Église catholique libère l'homme de l'emprise du péché, de l'emprise de la séparation de Dieu à travers les sacrements d'initiation, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Elle a ce ministère de Jésus de rapprocher les gens du Père à travers Jésus, de les mener au Père. Bon, ça déjà c'est toute une libération, toute une guérison spirituelle. Bon, ensuite l'Église a aussi plusieurs sacrements de guérison à proprement parler, comme le sacrement de réconciliation, qui est le pardon des péchés, hein, qui est le sacrement de l'onction des malades, qui est aussi pour des personnes qui sont atteintes dans leur santé, qui souhaitent recevoir la force du Saint-Esprit, ou même la guérison. Et de toute façon, l'Église demande une guérison. Mais de là à dire qu'elle guérit, ça n'a rien d'automatique, mais c'est à employer dans un sens plutôt métaphorique, plutôt plus large, si vous voulez. Mais il est évident que pour toute personne humaine, l'Église propose un cheminement de guérison, de libération, au sens large du terme.
Est-on obligé d'être croyant pour venir vous voir ?
Pour voir un service d'exorcisme, non. On reçoit toutes sortes de personnes d'autres religions, quelquefois, qui viennent, qui ont besoin de réfléchir, et puis de prière aussi. Non, il faut surtout que la personne soit volontaire, désireuse, demandeuse elle-même. Alors ensuite, il faut bien sûr être suffisamment respectueux dans les deux cas, quoi. C'est-à-dire aussi bien la personne qui vient voir le prêtre pour lui laisser dire ce qu'il a à dire, mais le prêtre aussi vis-à-vis de la personne pour respecter soit son incroyance, soit le fait qu'elle n'est pas baptisée, soit le fait qu'elle est d'une autre religion. Faut laisser du temps aussi, faut prendre le temps d'avancer tranquillement.
Vous aviez parlé aussi du sacrement de réconciliation. Alors c'est un sacrement qui est largement oublié maintenant par les chrétiens d'aujourd'hui. En quoi le sacrement de réconciliation, qui est le fait de demander pardon de nos péchés à Jésus, peut aussi apporter une guérison ou une libération ?
Ah, il nous remet dans la grâce de notre baptême. C'est vraiment un sacrement puissant. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais demander pardon de mes péchés et que je reçois l'absolution par le ministère du prêtre, il y a une action de Jésus et du Saint-Esprit pour me remettre dans la grâce de mon baptême. C'est vraiment très puissant. Alors, ce n'est pas forcément très visible, quoique la personne qui est habituée à pratiquer le sacrement de réconciliation est capable de se rendre compte d'un avant et d'un après, pratiquement à chaque fois qu'elle est remise en santé spirituelle, en quelque sorte, par ce sacrement. Quoi. C'est vraiment très puissant.
Oui, et on sent souvent une sorte de paix, de...
Voilà.
De
force, oui, moi, je conseille beaucoup, beaucoup. Hein. Oui, et à tous les gens qui viennent voir le prêtre exorciste, je leur dis, il y a probablement très longtemps que vous n'êtes pas confessé, bien comme tout le monde, mais il va falloir y aller. Il va falloir... Mais elles comprennent qu'effectivement, ça fait partie du traitement, entre guillemets, quoi. Et en particulier, il faut savoir demander pardon pour le fait d'être allé voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des toucheurs, des personnes travaillant avec des pouvoirs occultes, d'avoir demandé des services de voyance, de médiumnité, de divination, d'avoir soi-même été dans la divination par la cartomancie, la chiromancie, le pendule, tout ce qu'on veut. Enfin, parce que on a péché contre la sainteté de Dieu, même si on n'en avait pas vraiment conscience, quoi. C'est quand même important de solder la démarche en disant, bon, maintenant j'arrête, d'une part, je renonce, mais aussi je demande pardon à Dieu de m'être égaré sur des chemins de traverse, d'avoir raté ma cible, d'être parti ailleurs, et de m'être mis dans les pattes de l'ennemi, quoi.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
Acte de foi sur RCF Calvados Manche avec Sonia Duménil.
RCF.
Finalement, est-ce qu'on touche là à quelque chose de très simple qui est se réconcilier avec l'Esprit Saint, avec cette énergie qui nous vient de Dieu et de nul autre ?
L'accueillir, oui, comme étant fondamentalement la grâce de la liberté intérieure qui va me guérir petit à petit. Parce que après une démarche de prière de libération, moi, quand je reçois des gens, je ne les laisse jamais repartir sans un temps qu'on passe à l'église pour une prière de libération des liens occultes, prière de protection, voilà, toute simple, spontanée. Mais je leur dis après, vous allez avoir un combat spirituel à mener, à mettre en œuvre. Alors il faut commencer à prier tous les jours. Il faut faire une prière de protection tous les jours si vous avez touché aux choses occultes, parce que voilà, vous êtes plus vulnérable maintenant, donc il faut demander à Jésus, en vous plaçant sous la protection de son précieux sang, de vous protéger des atteintes du mal. Il va falloir la confession, sûrement. Il faut dénoncer les pactes s'il y en a eu. Si vous aviez un pouvoir, par exemple, vous le laissez. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui a exercé longuement ce pouvoir, ça constitue quasiment comme un pacte implicite avec les ténèbres. Donc il faut le dénoncer publiquement en disant, voilà, je renonce, je dénonce le pacte qui peut exister dans ma famille suite à la possession de ce don qu'on s'est transmis de génération en génération et que j'avais aussi dans mon porte-monnaie là, à cet endroit, avec un petit papier sur lequel est écrit la formule et que maintenant je prends, j'enlève, je déchire, je renonce, voilà. Ensuite, la prière de libération des liens, c'est-à-dire donc sur un plan spirituel, on coupe les liens mauvais qu'il peut y avoir entre la personne qui est là et chacune des personnes qui est intervenue sur elle à travers des bidouillages énergétiques, des formules magiques qui ont été prononcées, des paroles qui ont été dites dans la voyance, etc. Et voilà. Et ça peut être aussi par rapport à un conjoint qui a mis en œuvre des réalités de magie noire, par exemple. Hein. Etc. quoi. Ou des rituels qui ont été commandités dans les cas graves, couper les liens par rapport à ces personnes. Quoi. Puis après, donc, demander les dons du Saint-Esprit, demander à l'Esprit Saint de venir, d'équiper la personne de ses dons, prière, force, foi, voilà. Et c'est ce que j'appelle la mise en chantier après du combat spirituel. Chaque jour, il va falloir faire cette prière de protection. Chaque jour, il va falloir, à mon avis, réciter le chapelet, parce que prier avec Marie, c'est vraiment permettre d'avoir une protection avec l'Immaculée, et on en a besoin, vraiment. se confesser, aller communier tous les dimanches pour être spirituellement fort. Beaucoup de chrétiens qui sont simplement baptisés sont non pratiquants, donc sont spirituellement faibles. Et ils ont besoin de devenir forts.
Mais est-ce que ce n'est pas effrayant, tout ce listing de devoirs à faire à la maison ?
Vous avez raison d'attirer.
Oui, quand vous parlez de combat spirituel, ça montre bien qu'en fait, il faut qu'il y ait une démarche active. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de passif. On reçoit une prière de l'exorciste et on repart chez soi comme de la pharmacie. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une démarche volontaire.
Mais finalement, enfin, je dirais, y a une marge énorme. Je pense que dans nos vies tous les jours, nous aussi, il y a des portes d'entrée, je dirais aussi, sans jouer avec les forces occultes.
Absolument.
Toutes les complaisances qu'on a avec nos propres faiblesses, avec le mal qui nous entoure, les compromis,
Le combat spirituel est pour tout chrétien, est touché aux choses occultes ou pas. Il est pour tout chrétien. C'est-à-dire qu'il a, tout chrétien doit vraiment se mettre en communion avec le Christ tous les jours, pour vivre son baptême et être fort spirituellement.
Et à l'extrême bout, je dirais, de ce combat contre les liens occultes, je pense que vous avez, en tant qu'exorciste, est-ce que vous avez déjà pratiqué réellement un exorcisme ?
Oui, ça arrive bien sûr pour des gens qui sont réellement aux mains de puissance diabolique. Et on s'en aperçoit généralement, précisément au cours de la prière de libération, quand on prie pour elle, elle manifeste à ce moment-là des signes cliniques, entre guillemets, de possession, d'habitation par un esprit mauvais qui se met à les agiter ou qui se met à parler à travers elle, ou les personnes se sentent vraiment très mal. Et donc voilà, à ce moment-là, il faut arrêter, puis leur dire on va vous donner un autre rendez-vous et on prendra un autre type de prière qui sera le rituel donné par l'Église pour l'exorcisme, qui est une prière de libération.
Et qui se fait au nom de Jésus.
Qui se fait au nom de Jésus, avec un rituel donné par l'Église et avec un ministère transmis par l'évêque. Surtout ne pas jouer à l'exorciste. Et surtout aussi ne pas aller voir de faux exorcistes, parce qu'il y en a plein et sur Internet et dans la nature aussi, qui contre monnaie sonnante et trébuchante vont donner leurs prestations. Et donc ensuite le cheminement d'exorciste va être un cheminement qui va demander plusieurs mois, parce que les personnes ont besoin de revenir plusieurs fois pour être libérées et d'entrer elles-mêmes dans un combat spirituel plus précis, plus fort. Et si c'est bien mené à la fois par les prières d'exorcisme et par l'engagement de la personne dans la prière et le combat spirituel, au bout de quelques mois, elle retrouve une liberté spirituelle réelle, quoi. Ouais. Donc ça arrive, mais c'est pas du tout le cas habituel. En revanche, on reçoit beaucoup de gens qui sont, non pas possédés, mais parasités. Ils ont des phénomènes paranormaux, ils ont des diminutions de liberté, ils ont des atteintes spirituelles qui montrent que... Et il faut savoir que l'atteinte la plus courante, c'est l'enfermement dans le symptôme de déveine ou de poisse, où tout va de travers. J'arrive à rien, rien ne marche. et ça, quand on entend ça, on se dit, ah là, il y a quelque chose qui est symptomatique d'une atteinte spirituelle, mais ce n'est pas une possession. Donc, il n'y a pas besoin de l'exorcisme.
Et cette atteinte spirituelle, en général, est-ce qu'il y a un lien avec, justement, un affaiblissement, je dirais, de la vie spirituelle ?
Il y a surtout un lien avec les demandes que les personnes avaient faites de services occultes. Alors, il y a des tas de tièdeurs spirituelles dans lesquelles sont beaucoup de chrétiens baptisés, parce qu'ils ne prient pas, ils ne pratiquent pas, etc., ils ne lisent pas la Bible, ils ne reçoivent pas les sacrements. Bon, c'est un tas de tièdeurs spirituels. Donc ils circulaient, il n'y a rien à voir, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a des tentations ni même qu'il y a des péchés, voilà. Mais il y a l'état de la personne qui non seulement est dans un état de tiédeur, mais qui en plus a des phénomènes qui se déclenchent parce qu'elle a demandé des services occultes, et donc il y a besoin d'une prière, d'une démarche plus spécifique, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, ces services occultes, à quoi ils peuvent correspondre ?
Donc, à chaque fois qu'on va voir quelqu'un pour des conjurations magiques de maladies, c'est-à-dire la brûlure, les verrues, le zona, excusez-moi, conjuration, c'est-à-dire qu'il y a soit une petite formule qui est prononcée, soit un magnétisme qui est mis en œuvre. Deuxièmement, les magnétiseurs. À chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui va faire des passes magnétiques, qui va faire un bidouillage d'énergie niveau lambda, niveau de base, quoi. On n'est pas dans le domaine du Reiki qui suppose une initiation avec des symboles occultes, mais on est dans le cultisme de base. N'empêche, quelquefois, il y a des gens qui, pendant 20 ans, vont aller voir plusieurs fois par an un magnétiseur, généralement toujours le même, vous savez, c'est que le médecin de famille, ils ont leur magnétiseur attitré, et qui va être bidouillé à ce point qu'elles vont culminer sur 20 ans plusieurs centaines de contacts. C'est effrayant. Donc elles arrivent dans un état de délabrement ou d'infantilisation important, quoi. T'es aux mains de quelqu'un qui les a manipulés. Donc magnétiseur. Après ça, on peut dire tout ce qui est voyance, parce qu'on se met en posture divinatoire, hein, on demande à savoir, alors qu'on devrait mettre sa foi en Dieu, Providence, on demande à savoir et on s'adresse à des personnes qui vont soit nous manipuler, soit exercer des dons de médiumnité, des dons médiumniques pour s'introduire en nous et faire un viol psychique au fond, pour savoir des choses nous concernant et nous les redire et nous emmener ailleurs après. C'est essentiellement... Alors le spiritisme aussi que les jeunes peuvent pratiquer. Bon, mais il y a aussi les musiques hard rock, les musiques métal, où on invoque par des paroles les esprits diaboliques. C'est pas neutre. Hein. Le Hellfest, c'est pas neutre. Faut savoir. Donc si vous vous mettez dans les oreilles une musique, vous invoquez Satan, il va y avoir des conséquences, forcément. Hein. Donc il y a des tas de... Après ça, on va dans des domaines plus tendance aujourd'hui, j'allais dire, à travers tout ce qui est énergétique, avec des noms absolument affriolants, la kinésiologie, enfin que sais-je, il y a plein de choses. Et il faut savoir que maintenant, dans notre département, il y a de véritables centres qui se mettent en place, de centres New Age, au fond, où il y a plusieurs... thérapeutes entre guillemets ensemble qui se renvoient le patient de l'un à l'autre pour lui faire un circuit et qui vont rajouter une couche à chaque fois. Enfin, et moi j'observe que ça se met en place de plus en plus, des cristallisations de pseudo-thérapeutes qui sont en lien les uns avec les autres et quelquefois même à côté d'une clinique sous le label médecine douce, mais où les gens vont en y allant vont être impactés par des liens occultes.
Et lorsqu'on parle des sectes lucifériennes, satanistes et tout ça, est-ce que ça existe vraiment ?
Oui, ça existe, tout à fait. Mais ça, c'est un domaine ultime. On n'y rentre pas par hasard. Généralement, si on y entre, ce sera un petit peu en connaissance de cause et par un cheminement volontaire qu'on aura pu faire à travers un certain nombre de sas qui peuvent mettre en œuvre... toutes sortes de réalités différentes, dont la franc-maçonnerie, mais d'autres choses. Enfin, mais ça existe, oui, bien sûr. Malheureusement, oui. Avec des choses même innommables en termes de sacrifices. Enfin, c'est une autre question.
En tant que prêtre exorciste, est-ce que vous rencontrez dans l'Église encore des personnes qui doutent de cette mission particulière ?
Ben, elle est peu connue, au sens où l'Église, généralement, en parle peu. Ne publie pas le nom de l'exorciste ni son numéro de téléphone parce que sous prétexte de protéger l'exorciste, mais je pense que c'est une erreur personnellement parce que maintenant sur Internet on est capable de trouver plein de sites d'escrocs et de faux exorcistes et puis que sur le terrain encore une fois il y a des personnes qui proposent leurs services, hein. Et donc, à mon sens il faudrait que l'Église au contraire publie le nom du service de l'exorcisme, l'adresse, téléphone, de sorte que les gens sachent qu'ils peuvent demander de l'aide. Et donc, les gens ont peu, dans la mesure où l'Église en parle peu, les gens ont peu idée de ça, quoi. C'est plutôt par le bouche à oreille que ça se propage.
Surtout que vous travaillez toujours en lien avec des psychologues, des psychiatres.
Oui, forcément, parce qu'il y a les symptômes quelquefois.
Il y a un discernement à faire.
Voilà, il y a un discernement à faire et les symptômes qui sont manifestés par les personnes peuvent être sont à connotation psychique, évidemment, y compris dans le paranormal ou dans le culte et dans le diabolique. Et donc, il est bon de leur poser la question, êtes-vous suivi par un psychiatre dans un certain nombre de cas ou acceptez-vous aussi d'avoir un cheminement avec un psychiatre ?
Et c'est une mission qui a été confiée par Jésus et ses apôtres, non? Chasser les démons.
Oui, absolument, tout à fait. Très, très. D'abord aux 12, il n'y a aucun doute. Donc aux apôtres eux-mêmes. Ensuite, plus largement, semble-t-il, puisqu'il y avait aussi les 7 et les 72 qui faisaient des exorcismes, des délivrances. Et puis il y a cette fameuse parole de Jésus en Marc chapitre 16, que tous ceux qui croient pourront chasser les démons, quoi. Donc, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi quelquefois des laïcs qui ont soif de pouvoir et qui s'autoproclament un petit peu ayant des charismes particuliers dans ce domaine-là. Et là, moi, je suis un tout petit peu réticent parce que si un laïc doit être en lien avec le service d'exorcisme, forcément. S'il se touche à ce genre de domaine, il ne faut pas s'amuser avec ça, quoi. Mais bien sûr, oui, c'est un pouvoir. Enfin, c'est une mission donnée par l'Église. Jésus guérit, Jésus pardonne, Jésus libère. Ces trois domaines-là sont proches l'un de l'autre et c'est la mission de Jésus vis-à-vis de l'homme.
Un grand merci à vous, Père Dominique Osnet, de nous avoir éclairé sur la force de la prière et de l'Esprit Saint par les sacrements qui libèrent vraiment de ces pratiques qui finalement mènent l'homme vers ses ténèbres. Un grand merci à toute la chère équipe d'enquêteurs qui a mené cette enquête, cette initiation à tous les enjeux qui nous vient du Nouvel Âge et de ces pratiques à la fois de nouvelles religiosités mais aussi de pratiques de médecine alternative, de pratiques ésotériques, qu'on peut aussi mettre, je pense, dans toutes ces pratiques occultes. Et nous nous retrouverons très bientôt, puisque, on l'a bien compris, c'est très difficile d'évoquer une par une ces pratiques et d'aller vraiment en profondeur chercher le sens de ce qu'elles révèlent et de là où elles mènent l'homme qui la découvre. Donc, nous reviendrons vraiment sur chacune de ces pratiques ensemble pour continuer notre grande enquête. Merci, à très bientôt.